Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, nous pouvons reprendre. Donc, je disais que le deuxième contexte dans lequel on peut situer cette mention si brève du Register de la Stationer's Company, The History of Cardenio, par Master Fletcher and Master Shakespeare, peut être entendu, non pas simplement par les logiques éditoriales qui s'attachent à Shakespeare, mais aussi sans doute dans le revival, une présence de Cervantes et particulièrement du Quichotte dans le milieu du XVIIe siècle en Angleterre. D'une part, parce que la traduction de Shelton de 1612 est rééditée en 1652 dans un format folio, et elle se présente, comme beaucoup de ces rééditions d'une même traduction, comme « Now newly corrected and amended ». Mais il s'agit bien de la traduction de Shelton, dont vous souvenez que la première partie avait été publiée en 1612 et qu'il a traduit en 1620 la seconde partie. Et d'autre part, il y a deux ans après, fondée sur cette traduction de Shelton, un texte très curieux, je veux dire assez très difficile de commentaire, qui est un texte de Edmund Gayton, et qui est intitulé Pleasant Notes Upon Don Quixote, des notes plaisantes, divertissantes, amusantes sur Don Quichotte, 1654. Ce personnage de Edmund Gayton est un personnage peu connu, une carrière curieuse, bachelier et maître Essar à Oxford, puis aussi bachelier en médecine, et comme Mosley, royaliste et capitaine dans l'armée du duc d'York. Avant ses notes sur le Quichotte, il a très peu publié. Postérieurement, il publiera des livres sur la médecine ou des sortes de pièces de circonstances lorsqu'il rentrera en grâce, comme son royalisme lui assurant une meilleure sort après la restauration. Ce projet des notes sur le Don Quichotte, publié donc en 1654, par William Hunt à Londres, c'est un projet assez curieux, puisqu'on voit que dans l'un des poèmes préliminaires de Gayton a pour titre sur Don Quichotte avec des annotations. Et il commence ainsi, j'ai traduit, puisque je ne pense pas qu'il existe la moindre traduction en français de ce texte de 1654, « Le fameux chevalier errant d'Espagne, une fois de plus, sort de chez lui, monté de nouveau sur Rocinante. » C'est-à-dire qu'il sort pour être l'objet des commentaires de Gayton. Et ce même poème présente l'auteur du livre. « Notre auteur n'est pas un traducteur, mais un commentateur critique, but a critical commentator. » Ses annotations sont appropriées au texte, l'esprit anglais égalant l'espagnol. Is not he to the text does fit with English matching Spanish wit. Alors, ensuite, normalement, il y a toute une série de poèmes qui louent Gayton, comme dans toutes ces éditions du XVIIe siècle, et qui mettent l'accent sur la compétition entre le premier auteur, Cervantes, et son critical commentator, Edmund Gayton. Un certain John Speed, je ne sais pas qui est-ce, déclare « Sancho est maintenant récompensé et n'a pas besoin de chercher pour trouver une île plus loin que ce livre dans lequel le texte, comme une terre entourée, flotte au milieu du vaste océan des notes de l'auteur qui, dans son livre, comme les tisserands astucieux, fait avec la laine espagnole le meilleur des tissus anglais. » Donc on a cette comparaison du texte de Cervantes comme l'île de Barataria et de Sancho entourée par les commentaires de Gayton. Et un autre de ces laudateurs de Edmund Gayton, Anthony Hodges, vante à son tour la supériorité de l'annotateur. Si le don était encore vivant, il serait vexé de voir un commentaire meilleur que son texte. car certains des hommes d'esprit qui l'ont examiné ont dit que tes notes, donc il s'adresse à Gayton, n'étaient pas glossa ordinaria. Et il reprend le vieux caractéristique de la glose ordinaire de la tradition médiévale autour de la Bible. Alors il est clair que Gayton a profité de la réédition de Shelton en 1652 en format folio pour construire ce très curieux texte, puisque chaque chapitre des quatre livres, alors il ne vous c'est la notation qu'à la première partie du Quichotte. Donc chaque chapitre de chacun des quatre livres qui composaient le texte de 1605 est introduit par un argument en vers qu'il a composé comme un résumé en vers de ce que le lecteur lit dans le chapitre de Cervantes, puis suivent des commentaires en prose qui sont accrochés à de courte citation copiée presque littéralement de la traduction de Shelton. Donc il y a une citation et puis une note qui part de cette citation. Et c'est ainsi que la première page du livre, sous le titre de Notes Festives, Festivus Notes upon Don Quixote, présente ainsi successivement les indications livre 1, chapitre 1, six vers qui rappellent le ressort de l'intrigue. Le premier chapitre contient d'où vient notre chevalier errant, d'une vieille maison qui fait sa première renommée, puis il découvre, si vous regardez plus avant, qu'il n'a rien fait de manière irréfléchie, mais en suivant les livres de la chevalerie errante, et à partir de là, il se met en route, espérant gagner un nom aussi grand que celui de Scander. Donc on commence avec vous voyez qu'il y a le respect de la structure du livre de 1605, Book 1, Chapter 1, les six vers qui sont en l'occurrence le résumé le plus simple possible de ce qui est dit dans le premier chapitre. Et ensuite, Gayton commence la notation avec les premiers mots de la traduction de Shelton. Dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas longtemps. There lived not long since in a village of the Mancha, the name whereof I purposely omit. Et il commence un commentaire qui, pour vous donner une idée, va rappeler que le lieu de naissance d'Homère, tout comme les sources du Nil, sont des localisations inconnues, de la même façon que ce village de la Manche dont le narrateur ne veut pas se souvenir. Et ensuite, il enchaîne dans son commentaire, selon une technique qu'il va répéter pour chacun des chapitres de chacun des quatre livres, des allusions multiples, parodiques, ironiques, à des personnages ou à des événements anglais contemporains. Alors j'ai cherché à l'intérieur de cette assez opaque et curieuse construction de Gayton comment l'histoire de Cardenio était traitée, et elle commence au chapitre 9 du livre 3, quand, je le cite, le chevalier de la roche et le chevalier à la triste figure se rencontrent. Il reprend ici les traductions de Shelton des Knight of the Rock and the Ill-Favored Face. Night, ils se rencontrent l'un l'autre. Et l'histoire de Cardenio se déploie au chapitre 10 dans un très long poème de 147 quatrains sous le titre de Cardenio's Story et qui s'ouvre par ces vers: Cardenio is my name, my birth is one of Andalusia's best cities, which has got the prize for one of the choicest seats on the earth. Cardenio est mon nom, ma naissance en Andalousie, dans l'une de ses meilleures villes, qui a été louée comme l'un des lieux les mieux choisis de la terre. Et fidèle au parti qui est le sien, après un résumé en vers du chapitre, Gayton enserre ce poème de Cardenio au sein de commentaires suscité par différentes phrases du texte traduit par Shelton. La structure même de la page de ce livre de Gayton est extrêmement complexe, puisque, vous le voyez, il y a à la fois une alternance de vers et de prose, il y a les vers qui résument les chapitres, il y a les vers qui sont la mise en poème de certaines des narrations du Quichotte. Ici, très clairement, le premier récit de Cardenio lorsqu'il rencontre Don Quichotte lui-même, et des gloses qui s'attachent à des fragments de phrases de la traduction de Shelton. Alors pourquoi il a choisi de mettre en vers l'histoire de Cardenio ? Il le justifie ainsi. Vous aurez l'histoire en vers, car elle est longue, et en lui donnant ce pas, elle passera plus vite. Le récit de Cardenio suit au plus près le texte de Cervantes et de Shelton, jusqu'à l'interruption, vous vous en souvenez, de Don Quichotte, lorsque le titre de l'Amadis de Gaulle apparaît dans le récit de Cardenio lorsqu'il évoque que Lucinda lui avait demandé de lui apporter ce livre. Et c'est le moment où un commentaire malheureux de Cardenio qui met en question la vertu de la reine Madassina qui aurait fait l'amour avec son écuyer, mais Don Quichotte hors de lui, et il s'ensuit une dispute à la fois textuelle sur l'Amadis et ensuite plus directement brutale et physique entre Sancho, Don Quichotte et Cardenio qui ensuite s'enfuit à nouveau dans la Sierra Morena. Mais tous les éléments de l'histoire sont présents, l'amour réciproque et ardent de Cardenio et Lucinda, une beauté d'une grâce céleste qui faisait du lieu un paradis, puis l'appel de Cardenio à la cour du duc Richard et son amitié avec Ferdinand, puis la séduction et l'abandon de Dorothea par Ferdinand et son départ avec à lui, Fernando, avec Cardenio, qui lui a fait connaître la beauté et les lettres de Lucinda. Alors sur cette trame, qui est très fidèle en vers au récit de Cardenio en prose chez Shelton, c'est là où le texte est complexe, opaque, et nécessiterait, je pense, une connaissance très profonde du monde de la Révolution ou du monde de l'Angleterre du milieu du XVIIe siècle. Gayton ajoute de nombreux motifs. D'abord, un qu'il aime, c'est le jeu entre moderne et ancien. Donc, il multiplie les références aux anciens. Par exemple, Cardenio et Lucinda se parlent au travers d'un mur, tout comme Pyram et Thisbé, dit le texte, ce qui n'est pas présent chez Cervantes. Cardenio, dans ses hésitations, est comparé à Sisyphe. Les lettres de Lucinda l'emportent sur celles d'Ulysse à Pénélope ou encore sur Ovid's Rarities. Donc il y a un jeu lettré, savant, érudit du gradué d'Oxford avec ses parallèles constants entre la littérature ou la mythologie antique et des éléments des récits du Quichotte. Il y a d'autre part des inventions poétiques de son cru, par exemple les lettres échangées entre Cardenio et Lucinda, qui ne peuvent pas se parler puisque le père de Lucinda a interdit leur rencontre, sont portées par une colombe, « The emblem of true love, a feathered messenger well taught », l'emblème de l'amour véritable, un messager à plumes bien instruit. Et pendant 5 strophes, cette colombe porteuse des lettres est l'élément clé de la poésie. Et en plus, il ajoute aussi un autre détail, c'est-à-dire que les lettres de Lucinda, dans les vers de Gayton, mais pas dans le texte de Shelton Cervantes, sont baisées par les lèvres parfumées de la jeune fille avant d'être confiées à la colombe qui les rapporte à Cardenio. Donc on voit, il y a plusieurs registres. Il y a un registre qui est celui d'une certaine érudition, mais assez nourrie de lieux communs, des comparaisons avec la mythologie ou la littérature antique. Et un deuxième registre qui est la propre création poétique de Gayton, qui, pour ses propres fins, ajoute, modifie, déplace les motifs qui sont ceux de Cervantes traduits par Shelton. Le récit de Cardenio reprend au chapitre 13, dont le sommaire commence avec l'échange des rôles, vous vous souvenez, entre le curé et l'écuyer qui ont pensé à ce stratagème pour récupérer Don Quichotte dans la Sierra Morena. L'un jouera une princesse éplorée qui a besoin du bras d'un chevalier errant et l'autre son écuyer barbu. Et comme le dit le texte, au début, le curé devait être la princesse et le barbier le barbu. Le texte Il change les rôles chez Cervantes et aussi chez Gayton. Il change les rôles, mais pas l'intrigue. Et c'est là où ils entendent, second morceau du récit de Cardenio, la voix de Cardenio. Cardenio apporte sur la scène sa triste infortune. Ainsi théâtralisé, alors l'histoire de Cardenio est continuée sous la forme de 66 nouveaux quatrains, dont les quatre premiers sont la lettre adressée par Lucinda à Cardenio et lue par Ferdinand, et cette lettre encore plus enflammée qui va conduire Ferdinand à exclure, écarter Cardenio et demander la main de Lucinda. Et les strophes enchaînent l'une après l'autre les événements, l'envoi de Cardenio à la cour du duc pour l'écarter, la demande faite par Ferdinand pour son propre compte, la lettre de Lucinda qui avertit Cardenio de son proche mariage. Deux jours, Cardenio, et seulement deux. Two days, Cardenio, and but two. L'entretien des deux amants à la grille de la maison, la résolution de Lucinda de se donner la mort plutôt que de consentir à l'union avec Ferdinand, et finalement la fameuse scène du mariage qui est déployée sur les 16 dernières strophes du poème. Et là, rien n'y manque. Cardenio caché derrière la tapisserie, l'échange des paroles rituelles, le « I will » de Lucinda, son évanouissement, la lettre trouvée sur son sein, le départ de Ferdinand, la retraite de Cardenio par les champs, les rochers et les bois, et les demeures des bêtes, for the fields and sight of rocks and woods and beasts. Et c'est là où le curé et le barbier l'entendent et le rencontrent. Et Keaton ménage la transition avec le chapitre suivant, qui est le premier du quatrième livre, en achevant son commentaire avec l'évocation de l'extraordinary pleasant voice qui parvient aux oreilles de Cardenio, du curé, du barbier, la voix évidemment de Dorothea, comme il lui est découvert au lecteur au début du chapitre 4. Et alors, au début du quatrième livre, dans le premier chapitre, Gayton résume le contenu en 25 vers, puis il mène le récit des malheurs de Dorothea depuis sa séduction par Ferdinand, qui fut assez hardi pour faire de cette jolie coquine une putain, made bold to make this pretty rogue a whore, jusqu'à sa fuite dans les bois, où, au lieu de rencontrer les serpents de Cléopâtre, elle doit subir les assauts du page qui l'a accompagnée, mais vous vous souvenez qu'elle le précipite dans un ravin, puis du berger qui l'a recueilli, et après qu'il a découvert que « she was not as she seemed », elle n'était pas ce qu'elle paraissait. Et le commentaire reprend l'histoire, mais en versifiant d'abord Dorothea's description, dont la féminité est révélée à Cardenio, au curé, au barbier, par sa chevelure d'argent. Et puis ensuite, il y a non seulement Dorothea's description, mais Dorothea's tale, un long poème de 219 vers où Dorothea dit son histoire. Et le récit déploie ce que le résumé n'évoquait qu'en un seul vers, l'étreinte et les baisers de Ferdinand, introduits dans la chambre de Dorothea par sa servante, la promesse de mariage, les serments sur un missel et une image de la Vierge, et finalement, avec ce thème de la promesse qui vaut engagement de mariage, la reddition de Dorothea, et elle déclare « We did what lords and ladies do a night. » Nous fîmes ce que seigneurs et dames font durant la nuit. Et puis ensuite, le prompt départ de Ferdinand, aussi rapidement lassé qu'il était enflammé, mais après qu'il a donné un anneau à Dorothea qui a tenté en vain de le retenir. Abandonné, humilié, Dorothea apprend que Ferdinand a épousé Lucinda. On voit là quelque chose qui introduit un certain registre du texte de Gayton. J'ai évoqué ces parallèles avec une antiquité d'université, cette verve poétique qui lui fait versifier les récits et de Cardenio par deux fois et de Dorothea. Il y a aussi un registre qui est un registre aux limites d'une certaine forme d'érotisme ou de double entendre ou d'image licencieuse. Dorothea déclare en parlant de Ferdinand et de Lucinda, qu'ils aient partagé le même lit ne m'a pas ému, mais qu'ils soient mariés l'a fait. Et elle se rend sur les lieux du mariage, et comme chez Cervantes, elle recueille un récit qui complète ce que Cardenio lui en a dit. Elle dévoile ainsi le contenu du billet écrit par Lucinda et elle rapporte qu'un des assistants a voulu la tuer et elle conclut avec le départ de Ferdinand et Lucinda et d'elle-même dans l'espoir de retrouver son mari, mais qui a épousé une autre. Alors, ce texte de Gayton, ensuite, utilise le stratagème de la princesse Micomicona, appelée ici Nicomicona, lorsque Dorothée se substitue au barbier très rapidement dans le rôle. Et Gayton va continuer avec les moments clés qui sont inscrits dans le Quichotte et qui lui permettent résumé et commentaire, l'histoire du curieux impertinent et l'histoire du captif appelé « The Story of the Curious Impertinent and the Story of the Captive Turk ». Et finalement, c'est au livre 4, chapitre 35, que les amants réunis quittent le récit. Ce récit, qui pourrait se présenter dans ses formes comme un commentaire critique et littéraire de l'œuvre de Cervantes, en fait, répond à de tout autres objectifs ou principes. Dans un premier registre, comme je le disais, il déploie des références aux anciens qui ont une sorte comme support ou fin la culture d'université de Edmund Gayton. D'autre part, il multiplie ses remarques grivoises, licencieuses, qu'on peut rencontrer et s'aimer au fil des poèmes ou des commentaires. Il y a aussi un registre plus fondamentalement burlesque et carnavalesque qui est sans doute celui de la réception et de l'appropriation du Quichotte. Si ce texte est intéressant, c'est parce qu'il montre comment, au milieu du XVIIe siècle, dans ce contexte, le Quichotte est vu comme sous cette double catégorie dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire d'un côté un répertoire d'histoire dans l'histoire, et on voit ici Cardenio, Dorothea, le curieux impertinent, le captif, et il est vu aussi sous cette catégorie du burlesque qui est la manière de le saisir en Angleterre ou en France, ce burlesque qui ne se sépare pas d'une matrice carnavalesque et qui est la forme d'appropriation de la parodie qui, évidemment, dans le Quichotte, a d'autres résonances. C'est ce que pourront montrer d'autres lectures, d'autres appropriations plus tardives. Et pour Gayton, la matière, elle est là. C'est une matière à commentaire burlesque, parodique, ironique sur les contemporains et le commentaire fourmille d'allusions à la situation politique, aux acteurs des spectacles autres que ceux des scènes de théâtre et à des portraits de contemporains. C'est un texte qui, je crois, n'a jamais donné lieu. Il y a une bibliographie très réduite sur ce texte de Edmund Gayton, même si le personnage est intéressant par sa dimension politique durant la Révolution. Il montre sans doute cette présence de Don Quichotte dans le milieu du XVIIe siècle comme une matrice ou une matière pour exercer une verve poétique, un déploiement d'érudition universitaire et une manière de faire profit de ce qui est la dimension burlesque, carnavalesque du texte. En tous les cas, ce texte de Gayton est le troisième Cardenio dans l'Angleterre de la première moitié du XVIIe siècle. Le premier Cardenio est évidemment celui de la traduction de Shelton de 1612, le second celui de la pièce de Fletcher et Shakespeare de 1613, le troisième celui de ces notes plaisantes, festives, sur le texte de Cervantes Shelton, publié en 1654. Comme je le disais, dans ce contexte, Mosley aurait pu publier le titre sur lequel il avait une propriété depuis le 9 septembre 1653, mais pour notre désappointement ou notre contentement, il ne l'a pas fait. Alors, je disais que je vais terminer avec un épilogue qui est une sorte de prologue, puisque l'histoire ne peut pas en rester là, et que les fils de cette histoire, soit le fil qui est celui d'une présence de Don Quichotte dans l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles, soit le fil qui est celui de l'histoire de cette pièce perdue, ce manuscrit représenté en 1613, enregistré en 1653, peuvent et doivent être poursuivis sur le XVIIIe siècle. Il y aurait deux haltes possibles, et je terminerai aujourd'hui avec cela, en pensant que je rentrerai plus en détail pour cette fin de l'histoire qui nous conduirait jusqu'aux obsessions contemporaines pour ce Cardenio perdu que j'ai évoqué rapidement déjà, identifier une pièce conservée comme étant Cardenio alors qu'elle aurait été faussement intitulée, ou bien essayer de reconstruire cette pièce du début du XVIIe siècle à travers un état d'un texte que l'on a et qui prétend être son adaptation en 1728, ou encore écrire un Cardenio qui se substituerait sans vouloir le reconstruire au Cardenio perdu, sont les principales attitudes des critiques shakespeariens du temps présent. Mais pour arriver à là, il faut évidemment considérer deux autres temps tout à fait essentiels. Le premier qui est celui de la Restauration. On l'a déjà rencontré avec Mosley, c'est-à-dire à partir de 1660, un temps fort de la présence de Cervantes en Angleterre. Et pour plusieurs raisons. Pendant la période de la restauration des Stuarts et de la Révolution de 1688 jusqu'au début du XVIIIe siècle, une première raison de cette présence forte de Cervantes et du Quichotte en Angleterre, c'est se lie aux traductions. Non seulement on va rééditer plusieurs fois la traduction de Shelton, 1612, rééditée 1652, mais on va la rééditer dans de multiples formats, et en particulier entre 1672 et 1675, dans le format quarto, puis dans des petits volumes in 12, en 4 tomes, en 1725. Cette réédition de la traduction de Shelton assure une présence continuée de ce texte qui va, dans l'édition de 1725, s'orner d'une série de gravures qui sont celles qui viennent de la tradition française d'illustration du Quichotte, c'est-à-dire les gravures de Coypel. Mais, plus intéressant, de nouvelles traductions vont apparaître, 4 entre 1687 et 1711, et qui toutes méritent attention, puisque selon l'habitude du temps, elles se présentent comme inscrites dans la révision et la correction de la traduction précédente, mais évidemment, elles déplacent le texte du Quichotte pour l'ajuster à de nouvelles normes linguistiques, graphiques, ou stylistique. La première, 1687, c'est la traduction de John Phillips, qui était un neveu de Milton et qui a été la première édition illustrée. Non pas parce qu'il y aurait un frontispice, qui est une image. Vous vous souvenez qu'en Angleterre, c'est en 1620, avec la traduction de la seconde partie par Shelton, qu'apparaît pour la première fois un frontispice qui représente à la française Don Quichotte, Sancho et le Moulin. Mais il y a une série ici de 16 estampes dans la traduction de John Phillips, et qui, ces estampes, suivant le modèle hollandais, c'est-à-dire la première série d'illustrations du Quichotte, a été donnée dans l'édition en néerlandais de 1657. Le Quichotte est le livre paradigmatique d'un espace européen, puisqu'on voit que la première image de frontispice qui représentait, comme on les peint dans leurs livres, Sancho et Don Quichotte, était apparue sur la traduction française de la seconde partie en 1618, que la première série continue d'illustrations dans le texte est apparue dans la traduction néerlandaise de 1657, traduction et édition espagnole de 1660, et que dans l'édition anglaise de la réédition de Shelton de 1725, c'est le modèle français de Coypel qui est mobilisé. Donc 1687, John Phillips, 1700, une traduction de John Stevens, et qui se présente comme maintenant révisée, corrigée et en partie nouvellement traduite. Cette même année 1700, une autre traduction de Pierre Motteux, et qui se présente comme traduite par plusieurs mains et publiée par Mr. Motteux, révisée à nouveau à partir de la meilleure édition espagnole par Ozell, et en 1700, c'est celle de 1711, l'édition de 1700 mentionnait simplement ce que j'ai lu au début, c'est-à-dire traduite depuis l'original par plusieurs mains, publiée par Pierre Motteux. Donc on a deux traductions en 1700, une traduction en 1711, et il y en aura une autre en 1725, qui sera, comme je le disais, la réédition, mais corrigé de la traduction de Shelton avec les images gravées à partir de Coypel. Donc, un flot de nouvelles traductions, au moins quatre entre 1687 et 1711. Cela assure donc une présence démultipliée du texte de Cervantes. La deuxième raison est que l'on voit apparaître dans cette période des versions abrégées pour les éditions entre guillemets populaires, celles des chapbooks vendues par les colporteurs de Don Quichotte. Et un exemple serait, même si les datations sont difficiles, puisque ce sont des textes souvent sans date et en plus anonymes, mais la réduction, la contraction de la très longue premier volume, et voire des deux parties, sous forme de livrets de 24 pages, qui sont un des formats normaux des chapbooks. Et, par exemple, j'en avais rencontré un, qui l'histoire du toujours célèbre chevalier Don Quichotte de la Manche, histoire très comique et divertissante. Being very comical and diverting. Et c'est un petit livret de 24 pages, 8 bois gravés inscrits à l'intérieur du texte, réduction de l'histoire en 6 chapitres. Et c'est une pratique qui caractérise très fortement la composition des chapbooks. Et ici, d'ailleurs, on voit qu'elle est vendue par un libraire qui est installé, ou un éditeur, sur le pont de Londres, lieu où venaient s'approvisionner les colporteurs qui partaient ensuite dans la ville ou dans le the country, dans le pays. Et c'est une forme qu'il faudrait regarder de plus près, parce qu'elle a souvent été oubliée. Or, c'est une forme fondamentale de l'édition des textes, non seulement pour cette période de la fin du XVIIe siècle, mais pour celle du XVIIIe siècle. Entre parenthèses, les immenses romans de Richardson, si fondamentaux pour la fondation, si j'ose dire, d'un nouvel esthétique du roman, ont très largement circulé et ont été souvent lus, sinon le plus souvent lus, dans des formes qui sont celles de ces abrégés qui réduisent l'histoire et, dans le cas de Richardson, suppriment la structure épistolaire pour transformer l'histoire en un récit narratif déroulé dans un espace réduit, 24 pages, par un narrateur, et non plus comme des personnages échangeant des lettres. Donc, je crois qu'il y a une attention très particulière apportée pour le genre romanesque, entre guillemets, à ces formes de circulation qui en sont des formes de circulation transformées dans le sens que, ou bien ils abrègent, ou bien ils recomposent le texte. La troisième raison de cette présence, c'est la suite des adaptations théâtrales. Et là encore, on voit le procédé qui consiste à extraire une histoire de l'histoire, puisque les adaptations théâtrales se portent fondamentalement sur l'histoire du Curioso Impertinente. On a toute une série de pièces qui, dans cette période de la Restauration, portent sur la scène l'histoire des d'Anselm et des autres personnages de la nouvelle à l'intérieur de l'histoire. En 1671, une pièce d'Afra Behm, The Amorous Prince or the Curious Husband, ou en 1684, une autre de Thomas Southern, The Disappointment or the Mother in Fashion, ou encore en 1694, John Crowne, The Married Beau or the Curious Impertinent. Alors, on voit une série d'adaptations fin du XVIIe siècle, les années 70 à 90, qui viennent puiser dans ce répertoire proposé, ready-made par Cervantes, par cette histoire incrustée à l'intérieur des aventures de Don Quichotte. Et vous vous souvenez que cette manière d'extraire la nouvelle du curieux impertinent a de lointains ancêtres, puisque en 1608, la première traduction en français d'une partie du Quichotte a été une traduction du curieux impertinent, avec une édition bilingue espagnol-français, que Guillaume de Castro n'a pas seulement mis en scène Don Quixote et la Mancha, mais aussi El Curioso Impertinente. Donc les dramaturges anglais, y compris Afra Behm, dramaturge féminine, la fin du XVIIe, reprennent cette tradition qui est en même temps une facilité, puisque sans doute de toutes les histoires dans l'histoire, le curieux impertinent est la plus facile à adapter pour le théâtre, puisqu'elle n'a pas de lien, sinon le fait qu'elle est lue à haute voix par le curé avec les intrigues, les histoires, les personnages du Quichotte, ce qui n'est pas le cas ni du récit du captif, ni de l'histoire de Marcel et Chrysostome, et encore moins de Cardenio. Mais pour autant, et c'est la quatrième raison, Cardenio n'est pas absent de la scène anglaise dans cette période de la fin du XVIIe siècle, puisque en 1694, Thomas D'Urfey fait représenter The Comical History of Don Quixote sur le théâtre de Dorset Garden par la troupe des Their Majesty's Servants. Et c'est une pièce fameuse, puisque d'une part, c'est la première qui va à utiliser en Angleterre le nom de Don Quichotte au titre, The Comical History of Don Quixote, ni le Cardenio de 1613, ni les adaptations du curieux impertinent des années 70 à 90 ne le faisaient. Et d'autre part, elle est connue puisque la musique qui accompagne la représentation est une musique composée par Purcell. Et dans ce cas, je ne l'ai pas étudié, mais je le ferai comme début peut-être de la seconde volet de cette... Le Quichotte a deux parties, donc on peut bien faire deux cours sur cette question. Et grâce à la gentillesse de mes collègues de Philadelphie qui m'ont envoyé une édition, enfin un exemplaire de l'édition de 1694 de The Comical History of Don Quixote, on y voit que D'Urfey mobilise l'ensemble des personnages ou des intrigues qui t'en ajoutaient d'autres qui ne sont pas dans Cervantes, mais que, évidemment, Don Quichotte, Dorothée, Fernando et Cardenio sont présents ici, avec une inversion des équilibres que l'on avait vus chez Guillaume de Castro, chez Pichou, dans lesquels Don Quichotte est présent dans une histoire qui est fondamentalement celle de Cardenio, quel que soit le titre. Don Quixote et la Mancha ou les folies de Cardenio. Et ici, évidemment, on retrouve un équilibre qui était plutôt celui du Quichotte. Don Quichotte, Sancho, les aventures de comiques, l'histoire comique de Don Quichotte sont le cœur de cette pièce, mais Cardenio, comme chez Cervantes, y est présent. Alors, pour terminer cet épilogue-prologue, il faut bien dire un mot de pourquoi il y a une matière qui permet d'aller plus loin dans l'analyse du Cardenio de 1613. C'est parce que, dans la décennie 1720, va apparaître un retour sur la scène de Cardenio, sous un autre nom, mais dans une pièce qui est représentée en 1728 et qui a pour titre « The Double Falsehood », la double imposture, si on veut traduire à la Marivaux, « or The Distressed Lovers » ou « Les amants affligés ». Cette pièce est représentée en 1728 sur l'un des théâtres londoniens, Drury Lane, ou bien encore appelé The Theatre Royal, et qui, elle a un certain succès. Elle est représentée pour la première fois que le 13 décembre 1727, 10 représentations jusqu'en janvier 28, et j'ai dit 28 parce que c'est la date de publication du texte. Et c'est une pièce qui aura une certaine existence à travers le XVIIIe siècle anglais. Elle sera reprise dans les années 40, puis dans les années 60, 70, avec peu de représentations, mais néanmoins, elle ne sort pas du répertoire. Or, le fait important est que sur la page de titre de l'édition de cette pièce, il y a la mention suivante, « Written originally by W. Shakespeare and now revised and adapted to the stage by Mr. Theobald, the author of Shakespeare's Restored. » Et tout est dit dans ces trois lignes, c'est-à-dire l'idée que le Double Falsehood est une pièce qui est originairement une pièce shakespearienne. Et si on lit évidemment l'histoire que raconte The Double Falsehood avec des noms différents, c'est l'histoire de Cardenio, Lucinda, Dorothea et Fernando. Donc la pièce originally by William Shakespeare ne peut être que le Cardenio de 1613, mais elle a été révisée et adaptée pour la scène, c'est-à-dire adaptée à la fois linguistiquement pour un état de la langue qui n'est plus celui de 1613, adaptée pour des conventions de théâtre qui ne sont plus celles du théâtre élisabétain, en particulier par le fait que les rôles féminins sont joués par des actrices qui deviennent des figures au moins de compétition avec les grands acteurs du XVIIIe siècle anglais. Et par qui a-t-elle été révisée et adaptée ? Par Mr. Theobald, je crois qu'on prononce Theobald en anglais selon Peter Stalybras, qui est connu en 1728, date de la publication, par un ouvrage qu'il a publié en 1725 et qui s'appelle « Shakespeare restauré » et qui est une critique absolument féroce de l'édition de Shakespeare par Pope parue en 1725. Et donc le texte de Theobald, pardon, est de l'année suivante, évidemment. Il a eu le temps de la lire et de critiquer l'édition. Et le texte de 1726 de Theobald, Shakespeare Restored, a pour sous-titre un exemple des nombreuses erreurs qui ont été aussi bien commises que non corrigées par M. Pope dans sa dernière édition de ce poète avec le grand P. C'est le moment où Shakespeare devient The Bard ou The Poet et que les comparaisons avec l'écriture, avec un grand E, se multiplient. Vous destinez ce texte de Theobald non seulement à corriger la dite édition, mais à restaurer le véritable texte de Shakespeare dans toutes les éditions qui ont jusqu'ici été publiées. The true reading of Shakespeare, le texte correct, la lecture, on pourrait traduire avec en termes philologiques, la lecture véritable, authentique de Shakespeare. Et donc, vous voyez que ce qui pourrait s'ouvrir, ce que j'essaierais de faire, qui serait à la fois les cours de l'année prochaine et la fin de l'étude pour éventuellement la transformer en un livre, c'est de partir de ce texte de Théobald, parce que, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est parce que Théobald, en 1727, prétend avoir adapté une pièce qu'il possédait à travers trois manuscrits du XVIIe siècle et qui était le Cardenio, que l'histoire de Cardenio n'est pas seulement l'histoire d'une pièce à jamais disparue, mais qu'elle est aussi l'histoire de notre relation depuis le XVIIIe siècle avec cette pièce. Et de là s'ouvre l'ensemble de la discussion autour de déclarations de Théobald. Parce que Pope, pour se venger de la critique qui lui a été faite, immédiatement déclare que M. Théobald est un faussaire, qu'il a tout inventé, qu'il n'a jamais eu la moindre pièce du XVIIe siècle et que cette pièce est une totale invention, ce qui n'est pas accepté très massivement par ni les contemporains, ni la critique postérieure, et qui reste fondée sur l'idée qu'il existe une relation, mais de quel type ? Entre The Double Falsehood de 1728 pour l'édition, et le Cardenio de 1613. C'est donc à partir de l'adaptation de Théobald que se déploie cette interrogation sur la survivance dans de nouveaux habits de la pièce de 1613 dans le début du XVIIIe siècle anglais. Et la deuxième raison, peut-être qu'il y en a trois, la deuxième raison, c'est le fait que ce que je viens d'énoncer est emblématique avec ces trois lignes d'attribution à Shakespeare et à Théobald, est tout à fait symptomatique de la figure de Shakespeare dans le XVIIIe siècle anglais. C'est-à-dire cette très profonde contradiction, Castan a parlé de schizophrénie, entre une volonté philologique et éditoriale de récupérer le texte tel que The Poet l'a uttered, l'a énoncé, et qui va déployer toute une série de techniques pour les éditions nombreuses, avant celle de Théobald, qui lui aussi est éditeur de Shakespeare, son édition paraît en 1733. Auparavant, Pope en 1725, Nicholas Rowe en 1709 ont proposé des éditions des works de Shakespeare. Et on voit dans cette relation de quête d'authenticité, quête presque désespérée en l'absence de manuscrits accessibles qui se référaient au plus près de la composition des pièces, on a le déploiement à la fois d'une technique philologique. Théobald est sans doute un des premiers éditeurs qui restitue des leçons du texte qui n'apparaissent dans aucun des exemplaires imprimés, mais qu'il considère comme les plus plausibles, les plus vraisemblables, à partir d'un travail qui est un travail à la fois du texte par rapport à lui-même, c'est-à-dire de comparer certains passages douteux de Shakespeare avec d'autres passages dans d'autres pièces ou les mêmes de Shakespeare, ou bien de comparer le texte shakespearien avec d'autres textes des sources que Shakespeare a pu utiliser ou de certains de ses contemporains. Donc la double démarche philologique qui consiste à penser que le texte s'interprète par lui-même et que les leçons authentiques peuvent se déduire du texte, et vous voyez ce qu'il y a en arrière-fond, c'est évidemment la critique biblique. Et d'autre part, le fait que par un travail de récupération des quartos, par un travail de comparaison entre Shakespeare et ses sources, par un travail de comparaison entre Shakespeare et ses contemporains, la possibilité d'établir ce texte authentique, original, le true reading of the poet. Et en même temps, de là vient la schizophrénie, lorsqu'il s'agit d'écrire à partir de Shakespeare, dans cette autre forme d'écriture en collaboration, au-delà des temps, de partir d'un texte shakespearien pour en faire une pièce qui s'ajusterait aux conventions morales, linguistiques, politiques de l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, ce respect scrupuleux philologique se transforme en une très profonde liberté d'appropriation littéraire. Et Théobald en est un des praticiens, à côté de Davenant ou de Tate, avec une adaptation qu'il a donnée en 1720 de Richard II, Et c'est intéressant parce que, évidemment, dans le cas de l'adaptation qui part de Cardenio à The Double Falsehood, il nous manque un terme, et nous manque le Cardenio. Mais dans le cas de Richard II, évidemment, on a le Richard II dans l'état du folio, et puis le Richard II de Théobald, et on peut voir quelle est la mécanique des contraintes qui font transformer si profondément le texte, et vous pouvez l'imaginer, la mise de côté de tout ce qui a à voir avec l'abdication du roi, et au contraire, le renforcement d'une intrigue amoureuse entre Richard II et la reine. Et donc, c'est un élément, en dehors des éléments qui sont la régularisation de la poésie, des vers, et d'autre part, les transformations qui sont les transformations de la linguistique, lexicale. Donc Théobald et le Cardenio devenu la double inconstance, the double falsehood, ou la double imposture, pardon, est un exemple de cette présence double, divisée, contradictoire de Shakespeare. Et évidemment, la troisième raison pour partir de Théobald et de son propre Cardenio, c'est le fait que la présence de Cervantes, dont j'ai essayé de dire rapidement ici combien elle était forte dans l'Angleterre entre 1660 et 1720, va se trouver renforcée encore dans cette période, au point que l'on pourrait dire que le Quichotte est un grand roman anglais du XVIIIe siècle. C'est le moment où la présence du Quichotte devient paradigmatique du genre du roman, en particulier dans ses définitions nouvelles, et pour plusieurs raisons. L'une qui est le fait que le personnage central va devenir effectivement le héros et va quitter cet horizon burlesque, carnavalesque dans lequel nous l'avons situé avec les auteurs français ou avec Gayton, pour acquérir cette dimension pré-romantique de l'homme, de l'individu divisé entre la raison et l'égarement. Et d'autre part, le Quichotte est le lieu même de la thématisation sur un sujet qui obsède le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la lecture, les dangers ou les profits de la lecture. Et le Don Quichotte divisé de l'Angleterre du XVIIIe siècle est aussi l'emblématique de cette méfiance par rapport au désordre produit par un excès de lecture ou de mauvaise lecture, et de l'autre côté, la capacité du lecteur à articuler un raisonnement qui peut conduire à la dimension du raisonnement, du débat, de la critique, tel qu'on le voit dans de nombreux passages de Quichotte. Un peu après la pièce de Théobald commencera la série des autres adaptations théâtrales qui vont déplacer Don Quichotte dans de nouveaux contextes. La première, c'est Fielding, 1734, Don Quixote in England, qui va être joué à Londres. Et ensuite, c'est la référence obligée des romanciers à la matrice apportée par le Quichotte, accompagnée d'un nouveau flux de traductions, et une figure qui peut lier à la fois l'écriture romanesque habitée par la référence au Quichotte et la nouvelle traduction du texte, c'est la figure de Smollett qui va proposer lui aussi une traduction du Quichotte. Alors, partir pour un second mouvement du texte de 1727, imprimé 1728, de Double Falsehood, permet, il me semble, de suivre ce propos que j'essaye de tenir à travers cette étude, c'est-à-dire ce dialogue entre Cervantes et Shakespeare autour de la figure de Cardenio, en pensant à la fois dans le cas de Cardenio, la présence shakespearienne sur le théâtre dans l'édition du XVIIIe siècle se lie avec la présence multiple, donc de formes extrêmement nombreuses, du Don Quichotte dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Et c'est donc, après vous avoir remercié pour votre présence durant cet automne où il n'était pas toujours facile d'accéder au Collège de France pour des raisons évidentes, le jeudi matin à 10h, vous conviez à accompagner ce tome 2 des aventures du chevalier errant. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.